Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Dans ce numéro du magazine Idée, nous allons poursuivre une réflexion sur la France d'aujourd'hui. Après Jérôme Fourquet, l'auteur de L'Archipel français et co-auteur de La France sous nos yeux, que nous vous avons proposé d'écouter en janvier, ou une réflexion sur le moment Macron avec Olivier Mongin, je vous propose aujourd'hui un autre regard, celui de Laetitia Strauss-Bonnard qui vient d'écrire un essai généreux, ample, qui s'intitule « De la France, ce pays que l'on croyait connaître, la France aussi irritante qu'attachante », écrit-elle. Idée donc, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, sur votre moteur de recherche préféré, téléchargé pour l'écouter en balado-diffusion, comme on dit, quand vous le souhaitez donc. Bonjour Laetitia Strauss-Bonnard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef au magazine Le Point, essayiste, présentée en général comme une jeune figure de proue de ce que l'on peut appeler le conservatisme libéral. Alors on va commencer par cette définition. Qu'est-ce que le conservatisme libéral ?
Alors c'est une association de deux mots qui font peur, en tout cas en France, mais qui pour moi ont un sens. Parce qu'il faut les comprendre dans leur contexte qui est anglo-américain. Donc moi, je me rattache à une tradition de pensée particulièrement britannique qui a vu le jour il y a à peu près deux siècles. Et on peut considérer que le père fondateur de ce courant de pensée, c'est Edmund Burke, qui était philosophe, mais aussi député. Alors pourquoi invoquer un courant anglo-américain en France ? Alors ça n'est pas du tout pour tenter de l'importer de force. Mais c'est pour s'en inspirer, parce que je pense que la France possède des éléments qui y correspondent. Ça paraît contradictoire, paradoxal. Comment peut-on être à la fois libéral et conservateur ? Alors je l'explique de la façon suivante. Le conservatisme ne pourrait pas exister sans les Lumières. Autrement, on n'est pas conservateur, on est réactionnaire. Un conservateur accepte l'héritage des Lumières, il accepte la sécularisation, une forme d'acceptation des libertés individuelles, des libertés d'échange, de commerce. Il accepte aussi le primat de la raison, notamment, bien sûr, dans la science. Et il estime que, finalement, les Lumières et le libéralisme politique et économique sont une bonne chose. Mais, et c'est là que
intervient le conservateur.
Le conservateur intervient. Le libéral conservateur considère que tout ce qui est bon dans les Lumières n'aurait pas pu exister sans un socle culturel qui est très ancien et qui est fait de traditions et d'institutions qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Et si elles nous ont été léguées, ça n'est pas par paresse ou par passivité, c'est parce qu'elles avaient un sens et c'est parce qu'elles permettent de vivre ensemble. Et donc nous sommes finalement les héritiers parce que nos ancêtres ont survécu grâce aux traditions qu'ils ont adoptées. Donc nous ferions bien de les adopter aussi. Ça ne signifie pas que toutes les traditions sont bonnes. Il faut pouvoir les réévaluer à chaque génération. Mais ça signifie qu'a priori, quand on ne sait pas comment agir, se référer au passé est toujours plus sage que penser qu'on peut tout réinventer. Donc finalement, le libéral conservateur estime que la table rase systématique n'a aucun sens et que certes on peut promouvoir la liberté au quotidien, mais sans jamais oublier d'où l'on vient.
Alors il y a une logique dans cette émission, car il y a quelques semaines, nous avons parlé de John Stuart Mill, qui est aussi dans cette tradition, libérale.
Oui, très libérale.
Je précise, Laetitia Strauss-Bonnard, que votre analyse de la société française est aussi celui d'une intellectuelle qui a longtemps vécu en Grande-Bretagne, et qui est souvent considérée comme un contre-modèle en France.
Alors, cela dépend pour qui, parce qu'il y a aussi en Grande-Bretagne tout un ensemble d'institutions et de pensées qui ont très souvent intéressé les intellectuels français qui ont même cherché à s'en inspirer. C'est quand même un point de référence pour Montesquieu, pour Voltaire.
Oui, c'est le paradis de la liberté, oui, c'est
tout à fait
d'expression,
et,
notamment.
Et plus récemment pour un certain nombre de libéraux, et c'est vrai que John Stuart Mill, c'est une référence pour les libéraux, notamment les libéraux français. Je pense notamment à son texte de la liberté, qui est très souvent cité, notamment sur la liberté d'expression. Donc ça n'est pas forcément un repoussoir, hein, la Grande-Bretagne, c'est plutôt un rival. Donc c'est un rival, bien sûr, géopolitiquement, hein, dans l'histoire, mais aussi intellectuellement.
Et quand je parlais de contre-modèle, Laetitia Schroeder-Bonnard, je pensais surtout, j'aurais dû le préciser, au modèle social, en fait, hein, qui est très différent de celui, évidemment, de la France, et qui est ainsi présenté comme un contre-modèle, souvent.
Vous avez raison, et ça vient, en fait, de la place qui est accordée à l'État, en Grande-Bretagne, qui est différente de la nôtre, à l'État-providence, au rôle de la société civile, au rôle des individus et à l'indépendance des individus et de la société civile par rapport à l'État. Donc c'est vrai qu'à cet égard, c'est une sorte de contre-modèle. Les années de Thatcher, notamment, ont été très critiquées en France, parfois louées, mais de façon majoritaire critiquée et, je dirais, mal comprise.
Alors, Laetitia Schroeder-Bonnard, pourquoi écrivez-vous, dites-vous, que la France est à la fois irritante et attachante? D'ailleurs, ça ressort très bien dans votre livre. Il y a beaucoup d'irritation au début et vers la fin, quand vous parlez de l'art de vivre à la française, des paysages, de la géographie française, vous vous adoucissez un petit peu.
Elle est irritante parce que... elle a, à mon sens, un système institutionnel et un fonctionnement politique que je décris qui est structurellement problématique. Mais comme vous le dites, elle est aussi attachante, enfin, c'est ce que j'essaie de démontrer, parce que ce système institutionnel, qui peut être très pesant, avec son État très, très présent, dont on est assez dépendant, ce système a aussi du bon, c'est-à-dire qu'il crée du commun, qu'il permet, en fait, de souder, en quelque sorte, la société. Alors, avant de rentrer dans ces détails, j'aimerais préciser qu'on ne critique bien que ce qu'on aime. Moi, j'aime la France et mon éloignement pendant plusieurs années, quand j'étais en Grande-Bretagne, m'a montré à quel point j'étais attachée à mon pays. Donc, quand je la regarde...
Il n'y a pas plus patriote qu'un exilé, hein. C'est une phrase de Régis Debray.
Exactement, que je cite dans mon livre. Oui. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Mais ça ne m'empêche pas de la critiquer. Et si je la critique, c'est parce que je voudrais que certaines choses changent, s'améliorent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'accorde beaucoup de place à la critique dans mon livre et un petit peu moins à tout ce qui est bien dans notre pays. Mais j'essaie quand même de parler des deux.
Et vous rêvez d'ailleurs, parce que vous nous proposez à la fin une France version 2060. Je laisse les lecteurs découvrir ce scénario de science-fiction. Donc on va parler de l'État. Et on va encore peut-être dire, certains auditeurs nous diront, encore une intellectuelle ou un intellectuel qui va nous dire, ils ne sont pas si nombreux à ce micro, que le problème, c'est l'État. C'est votre avis ? Reprenons la célèbre phrase de Reagan.
Je pense que c'est tout à fait possible que les gens pensent cela en m'écoutant, mais je pense qu'ils ne se diront pas cela en me lisant. Mon propos n'est pas de critiquer l'État obèse, les dépenses publiques inconsidérées, l'intérêt général. C'est plutôt d'analyser d'abord la relation entre l'État et la société. Et ce qui pose problème, selon moi, c'est ce que j'ai appelé notamment la société de créance dans mon livre. C'est cette interaction qui prend la forme d'un cercle vicieux entre les deux. Mon idée, c'est que nous avons un État très généreux, objectivement très généreux, en service public, en État-providence, et même dans sa façon dont il promet de protéger l'industrie, l'emploi. Dans ses aspirations, il est généreux. Dans les attentes que nous avons à son égard, il correspond à cette générosité-là. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il nous demande, en échange, de lui céder énormément. Et je ne parle pas là de ressources. Je ne dis pas seulement que nous payons beaucoup d'impôts, même si c'est vrai. Je dis qu'en fait, il attend de nous que nous cédions beaucoup de droits et de libertés politiques. Et ça se voit dans des choses assez simples, enfin qui sont assez faciles à observer dans le paysage politique actuel. On le voit notamment dans le fait que l'État est une institution assez massive, qu'il est difficile d'évaluer. il est difficile de comprendre ce que fait l'État exactement, qui fait quoi dans l'État. Or, quand vous ne pouvez pas très bien attribuer la responsabilité des actions et les évaluer, vous ne pouvez pas vraiment sanctionner. Et je crois qu'un des grands problèmes qu'on a avec notre État, c'est que nous n'avons pas la liberté, alors c'est une liberté au sens large, hein, de comprendre ce que fait l'État et surtout de lui demander de rendre des comptes. Il y a une notion qui m'intéresse énormément, hein, et c'est une notion anglaise, hein, malheureusement, c'est accountability, le fait de rendre des comptes. Il n'y a même pas de mot pour traduire ça en français, on va dire responsabilité. Eh bien, cette responsabilité n'est pas présente. Par exemple, on a du mal à comprendre qui du président ou du premier ministre fait quoi. Qui de l'administration ou des ministres? Et à l'intérieur de l'administration, qui fait quoi? Est-ce l'État central? Est-ce l'État déconcentré? Est-ce l'État décentralisé?
Donc, alors, vous voyez, je propose à nos auditeurs d'écouter l'émission récente que nous avons faite sur la Ve République, par exemple, qui est très critiquée d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc, il y a cette espèce de magma difficile à comprendre qui empêche se rendre compte, que j'appelle de mes voeux. Ça, c'est un premier exemple de limitation de droit politique. J'en vois un autre, alors qui est très souvent évoqué, c'est celui de la représentation. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de représentation en France aujourd'hui. Les Français ont le sentiment, et ils ont raison, que leur voix et que la voix de la majorité n'est pas forcément entendue. Et je le dis, quelle que soit mon opinion vis-à-vis de cette majorité. Je pourrais être d'accord, je pourrais être en désaccord. Je constate simplement que sur un certain nombre de sujets, ce que veulent les Français n'est pas traduit par la représentation politique. Et à mon avis, le système présidentiel est un des grands responsables de ce manque de représentation.
Et ce qui est quand même paradoxal, Laetitia Chose-Bonnard, Olivier Mongin nous le disait dans une émission précédente, nous sommes pourtant dans un pays qui est suradministré et qui a beaucoup d'élus à tous les niveaux.
Oui, il a beaucoup d'élus à tous les niveaux, mais si on se penche d'abord sur la décentralisation, si c'est à ça que vous faites peut-être allusion, la décentralisation à la française a été administrative et non pas politique. En fait, on a décentralisé des guichets de subventions et d'aides. On n'a pas décentralisé la décision. Quand on dit par exemple qu'une région s'occupe des lycées, mais elle s'occupe de quoi en fait? Elle s'occupe des travaux qu'on va pouvoir faire dans un lycée. Elle ne s'occupe pas du tout de la politique éducative d'une région. Ça, ce serait de la vraie décentralisation. Donc, je suis frappée en fait par le fait que ça n'est pas parce que, déjà, ça n'est pas parce que vous administrez que vous gouvernez. Ça, c'est une distinction que faisait notamment Jean-François Revel. Mais qu'il ne suffit pas d'avoir des élus partout pour que la décision, les décisions que prennent ces élus soient effectives. Parce que si ces élus se contentent de gérer des choses qui ont été fondamentalement décidées par l'État central, en tout cas sur les grands sujets, ça ne change pas grand-chose.
Alors, ce qu'il faut noter, ce que vous rappelez dans votre livre, Laetitia Chose-Bonnard, c'est que la France s'est constituée grâce à l'État. A modelé, l'État a modelé la France. C'est, écrivez, vous nous rappelez que la France, la croissance de l'État a modelé la France et solidifié sa mentalité.
Oui, c'est très juste.
Depuis Louis XIII, au moins.
Oui, c'est notre histoire.
Donc, c'est-à-dire avec la constitution d'un territoire, d'une administration, et très important aussi, on va en reparler tout à l'heure parce que cet esprit continue à vivre, une cour.
Exactement. En fait, ce qui est important pour la constitution d'un pays, donc la France n'est pas une exception, c'est l'administration et la taxation qui souvent se développent dans un contexte de guerre. Alors la France s'est constituée de cette façon, on a réuni plus ou moins de forces dans certaines provinces, mais ce qui est spécifique en France, c'est qu'à partir de Louis XIII, on a vraiment voulu solidifier tout ça, et ça s'est évidemment accru après avec Louis XIV, et ça, c'est là que ça devient intéressant, ça s'est aussi accentué après la Révolution française. C'est-à-dire que la Révolution française n'a pas été une rupture dans l'ordre de la gestion et de la vision politique, elle n'a été qu'une rupture dans l'ordre de la légitimité. On est passé de la légitimité divine et monarchique à la légitimité populaire. Mais on a gardé quand même un État central qui décide, qui concentre le pouvoir et qui ne supporte pas les contre-pouvoirs. Et c'est même encore plus intéressant parce qu'au temps de la monarchie, on tolérait quand même un certain nombre de contre-pouvoirs. L'aristocratie était un contre-pouvoir évident. Il ne faut pas penser que aristocrate et roi avaient toujours les mêmes intérêts.
D'ailleurs, c'est pour ça que Louis XIV a créé la cour, à Versailles, pour la dompter.
Exactement. Et il y avait tout ce qu'on appelle des corps intermédiaires de toutes sortes. L'Église en était un, les universités. Il y avait en fait un maillage dans les provinces assez compliqué en fait, avec différents échelons, différents types d'institutions. Mais bien sûr, c'était une société injuste où tout le monde n'avait pas les mêmes droits. Mais il y avait quand même des libertés locales, ça existait, et des contre-pouvoirs. Or, la Révolution, finalement, elle se débarrasse de tout ça. Donc certes, tout le monde devient égal devant la loi et c'est une très bonne chose. Mais elle se débarrasse de ces points d'ancrage, de ces institutions de la société civile qui permettent...
Les parlements, par exemple, Exactement. Les parlements des régions, par
Exactement,
exemple.
Qui permettent de jouer un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. Donc l'État a avancé de cette façon, il a continué tout au long du 19e siècle avec la construction notamment des services publics. Au 20e siècle, c'est l'État-providence. Et bien sûr, je ne critique pas toutes ces... ces avantages, tous ces bénéfices. Je critique simplement l'idée que la solidarité et le bien commun ne pourraient relever que de l'État. Je pense que une société civile, c'est-à-dire des individus qui décident de s'entraider, de vivre ensemble, peut exister indépendamment de l'État. Et que c'est un danger pour une société de se passer de ces intermédiaires. Ça semble peut-être étrange. On a l'impression qu'avec l'État, on a forcément des services plus égalitaires, plus justes, plus répartis. Mais je pense qu'en oubliant la société civile, on laisse l'individu seul par rapport à l'État. Et finalement, l'individu perd un certain nombre de libertés de cette façon.
D'ailleurs, vous dites que le mouvement des Gilets jaunes est, selon vous, non pas un mouvement politique, mais un mouvement vraiment contre l'État, en fait, d'interpellation, en tout cas, de l'État.
Et je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure, puisque je décrivais cette société de créance avec ce rapport entre l'État et la société qui n'est pas, qui est toujours déséquilibré. Et mon hypothèse, c'est de dire que, en général, ça tient. Ça tient à peu près, c'est-à-dire que l'échange est inéquitable, mais bon, on se satisfait quand même de cette relation à l'État. Et puis, soudain, ça ne tient plus. Et là, arrive une crise. Et les Gilets jaunes, pour moi, c'est plutôt la crise emblématique du rejet de l'État. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, au départ, manifestaient très pacifiquement contre l'augmentation d'une taxe sur l'essence. Mais ça disait beaucoup plus. Ça disait « nous sommes des gens ordinaires et nous avons l'impression que l'État ne cesse de tout décider pour nous et surtout nous impose des choses qui ne sont pas vivables, comme s'ils ne nous connaissaient pas ». Et alors, ce qui est vraiment passionnant dans cette crise, c'est qu'à la fin de la crise, l'État est le recours. Donc le résultat, c'est de dire aux Gilets jaunes, vous aurez un petit peu plus d'aide, d'ailleurs des aides quand même très faibles, et le problème politique n'est pas réglé. Et ce qui est vraiment étonnant, aujourd'hui on est en campagne présidentielle, enfin bon, on est censé vivre une campagne présidentielle, mais la question politique posée par les Gilets jaunes, c'est-à-dire la représentation, n'est pas posée. Aucun candidat n'en discute. Moi, je suis éberluée. Et surtout pas le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, qui a été confronté à cette crise et qui aurait pu donc développer toute une réflexion sur le changement institutionnel de la France. Au lieu de ça, il a proposé, je l'ai vu récemment, une sorte de grand débat permanent avec les Français, qui est le contraire pour moi de la démocratie directe.
Et d'ailleurs, vous notez, non sans raison d'ailleurs, Laetitia Strauss-Bonnard, que nous sommes à une époque malade de son incontinence verbale. Je trouve que la formule est heureuse et correspond beaucoup à la réalité.
Oui, c'est très sévère. Et d'ailleurs, j'ai cette formule dans l'introduction du livre.
On parle beaucoup. Oui.
Je décris aussi le président de la République qui parle beaucoup et qui fait des discours très longs. Oui, alors l'incontinence verbale...
Mais n'est-ce pas une tradition en France, finalement ?
Alors l'incontinence, non. Je pense que... je pense que...
Incontinence verbale.
Je pense que la France aime parler, aime écrire, aime lire. Et nous avons cette grande tradition intellectuelle. Mais bien évidemment, aujourd'hui, la technologie fait que le discours continu est possible. On peut parler et écouter des gens parler du matin au soir et même toute la nuit. Donc forcément, il n'y a plus de limite matérielle à la parole. Donc ça devient beaucoup plus difficile. Je pense que la limite à la parole est nécessaire. Je pense qu'il vaut mieux parler rarement, mais parler bien, parce que parler, ça demande du travail. Bien parler, ça demande du travail. Donc, c'est impossible de parler tout le temps, en réalité. Mais quand vous n'avez plus cette limite matérielle, quand la possibilité de la parole est infinie, Finalement, vous tirez une balle dans le pied parce que votre discours n'a plus de valeur. En fait, c'est comme l'inflation, vous démonétisez le sens de la parole.
Laetitia Strauss-Bonnard, comment expliquer, parce que c'est au cœur de votre livre, cette exaspération française ? Alors que l'État est là et essaie de répondre à tous les besoins, comment expliquer cette exaspération ?
Eh bien, c'est précisément ce que j'essaie de décrire avec cette idée de créance, c'est que... Certes, le matériel est important et nous avons besoin tous de vivre dans des conditions décentes. Mais une fois que cela existe, je crois que le spirituel est tout aussi important. Et en l'occurrence, là, c'est la participation politique. Donc le mécontentement français, il vient pour moi de cela. Et d'ailleurs, souvent, il s'exprime de façon matérielle. La question du pouvoir d'achat, par exemple. Mais je pense que souvent, ces revendications matérielles cachent des revendications politiques qui sont plutôt celles de la participation politique. Mais c'est très difficile de pouvoir analyser soi-même ce genre de choses quand on est dans une situation compliquée. Et encore une fois, je reviens au gilet jaune. C'est ce qui est vraiment apparu de ce mouvement. C'est qu'il y avait quand même une volonté partagée dans toute la France, dans la France profonde, dans les provinces, de participer à la politique. Donc moi, le mécontentement, je l'analyse comme une espèce de frustration très forte, qui peut d'ailleurs être complètement contradictoire, parce que les mêmes personnes vont s'abstenir aux élections. Mais peut-être aussi qu'elles s'abstiennent parce qu'elles sont très déconcertées par l'offre politique.
Vous écrivez en un mot, depuis sa naissance, il y a des siècles, la créance, d'abord protectrice, puis servicielle, enfin nourricière, a fabriqué un État simultanément père, mère, mari et femme, frère et sœur, nounou, animateur culturel et même psychologue. Et toujours dans ce pacte faustien, l'extension de l'assistance est allée de pair avec la privation de nos libertés et le rabougrissement d'une société civile digne de ce nom, c'est ce que vous appelez donc cette société de créance, l'État nourricier nous a dénutris. Ce qui veut dire, Laetitia Strauss-Bonnard, on a remarqué votre style percutant, qu'il faut que les Français cessent de penser à l'État pour agir.
Et qu'ils cessent de penser que l'État sera toujours la solution à leurs problèmes. Et d'ailleurs, eux-mêmes le vivent de façon très contradictoire, puisqu'ils sont souvent les premiers à dire que l'État leur cause des ennuis. Mais l'idée, c'est un petit peu de clarifier les choses. Et comme je le disais au début, de ne pas forcément critiquer l'État dans son ensemble. Et c'est de s'interroger sur la relation qu'on peut avoir avec lui pour être plus libre. Je vais vous prendre un exemple assez simple. En France, on a quand même des corps intermédiaires ou une espèce de société civile dans les syndicats et les associations.
Voilà. En perte de vitesse, les syndicats.
Oui, bien sûr, ouais. Malheureusement. Alors, ce qui est très frappant, c'est que ces institutions ne sont pas, pour moi, de la vraie société civile parce qu'elles dépendent financièrement de l'État, en grande partie. Et ça, c'est un problème. Je pense qu'elles ne sont plus très actives et elles n'ont pas forcément beaucoup d'influence, alors notamment surtout les syndicats, parce que les syndicats, en l'occurrence, n'ont pas l'indépendance que pourraient leur conférer des cotisations qui viendraient uniquement de leurs membres. Si c'était le cas, ce serait très différent. On aurait un vrai rapport de force, un vrai contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. Et là, on pourrait commencer à penser, les gens pourraient commencer à penser différents changements, différentes réformes, indépendamment de ce que peut faire l'État. Donc moi, je pense que le gain en liberté serait vraiment très important. Mais on ne prend pas du tout cette direction-là aujourd'hui. La direction qui est prise dans la société civile, c'est de demander à l'État plus d'aide, plus de subventions. Et on ne voit pas qu'en faisant ça, eh bien, encore une fois, on coupe la branche sur laquelle on est assis.
Alors ça, c'est sur le plan des subventions, oui. Sur le plan social, économique, Laetitia. Mais vous analysez aussi dans ce livre l'impact qu'a l'État dans le domaine de la recherche, de l'éducation et même des médias.
Tout à fait.
En le critiquant.
Je suis très critique parce que je pense que l'État, en finançant très généreusement la culture et la vie intellectuelle, ne lui profite pas forcément. Par vie intellectuelle, j'entends énormément de choses. Hein. Je comprends les chercheurs, les universitaires, mais aussi les experts qui sont passés par l'ENA. Donc, je n'entends pas forcément intellectuel dans le sens d'intellectuel engagé, mais plutôt de quelqu'un qui vit hein, de ses capacités cognitives. L'État les finance énormément, on le sait. Je pense que c'est problématique parce que cela donne une vie intellectuelle forcément conformiste, parce que la source de votre existence, vous lie forcément. On ne peut pas être complètement indépendant de la source de ces financements. Donc si une grande majorité des chercheurs et des experts sont financés par l'État, ils ont forcément une orientation intellectuelle qui ira dans le sens de cet État. Alors, c'est subtil, c'est très subtil.
Parce qu'ils vous diront, eux, qu'ils sont indépendants.
Mais bien sûr, simplement, il y a deux choses. Ça marche dans les deux sens. Quand vous acceptez d'avoir une carrière financée par l'État, vous avez peut-être déjà une certaine orientation d'esprit. Donc c'est déjà parce que vous êtes bien disposé à l'égard de l'État que vous allez être tout à fait content d'être rémunéré par l'État toute votre vie. Donc ça, il y a déjà une présélection en fait de type de personnalité. Et ensuite, une fois que vous êtes dans ce genre d'environnement, il y a forcément un conformisme qui s'installe. Vous allez être entouré de gens qui pensent tous quand même que l'État est une très bonne chose, que l'État doit intervenir.
Critiquant souvent.
Je vais y venir. Mmh. Et donc, il y aura cette espèce de chambre d'écho qui va se constituer et qui va finalement nuire à la vraie pensée. Quant à la critique des intellectuels et des chercheurs à l'égard de l'État, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de chercheurs qui sont de gauche, la majorité des universitaires est de gauche. On a des chiffres là-dessus. Il y a un très bon livre qui est sorti qui s'appelle « Que pensent les penseurs hein, » à ce sujet. Le paradoxe, c'est que vous pouvez être de gauche, critiquer l'État fortement, vouloir le grand soir, préférer Jean-Luc Mélenchon à tous les autres, et en même temps, être finalement assez satisfait du système. Ça semble paradoxal, mais je pense que la vraie critique n'a de sens que si elle est accompagnée d'action. Si vous critiquez l'État du jour au lendemain et que vous en dépendez complètement financièrement, je pense qu'il y a... Il y a un problème. Quand vous avez certaines idées, vos actions nient vos idées, ça n'invalide pas vos actions, ça invalide vos idées.
Vous écoutez le magazine Idée avec notre invitée Laetitia Strauss-Bonnard. Nous parlons de la France à l'appui de son livre intitulé « De la France, pays que l'on croyait connaître », publié aux éditions Perrin et aux presses de la Cité. Un essai stimulant, Laetitia Strauss-Bonnard. Il y a aussi en France, et c'est lié à ce phénomène de cour, à la cour et à l'histoire, ce phénomène de cour précisément qui rejaillit dans le monde administratif, dans le monde culturel, dans le monde politique. Il y a toujours dans les esprits un État puissant, un président de la République qui est à sa tête et une cour.
Tout à fait. Alors, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a la puissance du président de la République, le système présidentiel que j'ai critiqué, que je critique dans mon livre, donc qui est un héritage hein, de la monarchie. C'est difficile de ne pas le voir. Sur le phénomène de cour, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est comme si on avait maintenu une forme d'aristocratie dans notre démocratie.
Une noblesse de robe.
Exactement. Mmh. Et bien sûr, elle est entretenue par l'État. Et alors, comment ça se caractérise aujourd'hui ? Ben, ça se caractérise quand même par le fait que l'État entretient des statuts différenciés dans notre société. Il est quand même très frappant de voir que, en fonction de votre type de travail, vous n'êtes pas forcément traité de la même façon. Que vous soyez fonctionnaire ou non fonctionnaire, si vous n'êtes pas fonctionnaire, si vous avez un CDI ou un CDD, et ensuite tous les types de travail qu'on dit précaires aujourd'hui, votre vie sera différente. Vous n'aurez pas accès de la même façon au crédit et au logement. Pour moi, ça, c'est une énorme injustice dans notre société. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas de la résoudre. Dès qu'on essaie de résoudre ce problème de permanence des statuts, eh bien, on a devant soi très souvent la gauche, qui pense qu'on est en train de précariser la terre entière. Alors qu'au contraire, ce serait une mesure d'égalisation vraiment, vraiment libératrice pour beaucoup de Français.
Dans le monde intellectuel qui nous intéresse dans cette émission, Laetitia Strauss-Bonnard, vous allez même jusqu'à dire que finalement l'État empêche la création et la réflexion. Malgré cette belle phrase qui me fait toujours rire de Jean-François Revel que vous citez au début d'un chapitre intitulé « L'intelligence empêchée », la phrase de Revel étant celle-ci « Depuis le temps que la culture française rayonne, je me demande comment l'humanité entière n'est pas encore morte d'insolation ». Il y a toujours de la part de la France ce désir d'être un pays de culture, mais vous vous dites que paradoxalement l'État peut empêcher en fait cette création et cette réflexion.
Oui, tout à fait. Alors j'aime beaucoup cette citation, je vous remercie de l'avoir, donnée. Elle est extraite des mémoires de Jean-François Revel. Oui. L'État, d'abord, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, suscite ce conformisme intellectuel dont je vous ai parlé. Même si il y a une apparence de contestation, je pense qu'il y a quand même un certain conformisme de par l'intervention qu'il a dans le monde des idées, dans le monde de l'expertise. Imaginez un pays où l'État financerait moins. La recherche, je ne parle pas forcément de recherche fondamentale, hein, mais de la recherche, de l'expertise étatique, l'université. Vous auriez très probablement tout un écosystème privé d'universités, de think tanks, alors de médias plus indépendants, parce qu'en plus les médias sont très subventionnés par l'État. Et donc, vous auriez plus de diversité. Moi, je ne suis pas pour que l'État ne finance rien, évidemment pas. Et moi, je dois moi-même énormément à l'État pour mon éducation. Mais j'appelle plutôt à une meilleure diversité intellectuelle, par une meilleure diversité des origines des intellectuels, pour que le débat aille plus loin, soit plus riche.
Parce que l'État peut être aussi le garant du pluralisme. Là, je pense à notre maison, je pense à l'audiovisuel public, par exemple.
Alors, vous avez tout à fait raison. En théorie, je pense qu'il y a non seulement le pluralisme, mais même la capacité à financer des activités qui ne pourraient jamais être financées sur fonds privés. Et donc ça, c'est une excellente chose. Le problème, c'est que il y a un autre phénomène qui peut aussi se produire, c'est qu'il est garant, disons, de la préservation de ces activités pas très lucratives, mais il n'est pas forcément garant du pluralisme, parce que dans un média, même un média public, si vous n'avez pas un certain nombre de règles de conduite pour choisir, par exemple, vos journalistes et surtout les thèmes qui vont être étudiés, eh bien, vous pouvez très bien recréer une chambre d'écho où tout le monde pense pareil. Il n'y a aucune règle aujourd'hui qui fasse qu'une radio ou une télévision publique soit le plus objectif possible.
Donc ça, c'est la pratique qui fait la différence, effectivement, au sein des rédactions. Et on sait qu'aujourd'hui, les rédactions peuvent s'exprimer librement. On pourrait vous faire aussi la remarque, Laetitia, que dans le privé, dans le groupe Bolloré, il peut y avoir aussi quelques problèmes.
Mais bien évidemment. Et puis, dans mon livre, je prends un exemple un peu extrême, où je parle de la recherche sur les OGM. Évidemment, si elle est financée par Monsanto, on a peut-être plus de raisons de s'interroger sur la qualité de cette recherche que si c'est financé par le CNRS. Donc je suis bien d'accord qu'en fait, les biais sont partout. Mais c'est bien là le point important. Les biais sont partout, y compris dans le service public. Donc l'idée, c'est de si on cherche les conflits d'intérêts, et on a raison de le faire, il faut être capable de les voir partout, y compris chez soi.
Donc si j'ai bien compris, je pense avoir compris votre livre, qui est encore une fois stimulant et que je conseille, Laetitia Strauss-Bonnard, il faut que la France se désintoxique en quelque sorte de l'État.
Oui, c'est tout à fait, vous le posez exactement de la bonne façon, ce qui ne signifie pas, encore une fois, se débarrasser de l'État.
Le remettre à sa place.
Exactement, je ne suis pas du côté des libertariens qui vous diraient, sans l'État, tout serait tellement mieux, pas du tout. Le remettre à sa place, ça veut dire attendre aussi de l'État qu'il soit humble. Donc ça implique des efforts de toutes parts, ça implique des efforts de tout le monde. C'est-à-dire que nous sommes aussi partis de cette relation un petit peu malsaine. Donc ça implique de s'interroger aussi sur nos attentes, les attentes qu'on a à son égard. De la part de l'État, je pense que c'est quand même assez faisable. Malheureusement, ça dépend beaucoup aussi des personnalités politiques qui sont au pouvoir.
Surtout sous la Ve République.
Tout à fait. Et je ne vois pas chez elles, en tout cas celles que je vois aujourd'hui, beaucoup d'humilité. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse compter sur les qualités morales individuelles des personnes. Je pense qu'il faut plutôt compter sur le changement des structures et des institutions. Et ensuite, le reste suivra. C'est pour ça que j'appelle dans mon livre à un certain nombre de changements, notamment le grand changement institutionnel. Ce serait d'avoir une vraie démocratie parlementaire. Et on se désintoxiquerait de l'État petit à petit. Parce que déjà, on comptait moins sur un président.
Donc, vous prenez une 6e République, vous aussi?
Oui, alors, oui, en l'occurrence, oui. Une 6e République. Et même, j'y ajoute le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la démocratie directe, qui, pour moi, est une proposition absolument passionnante, qui a émergé dans l'espace public grâce aux Gilets jaunes, et qui, à mon sens, a été très mal comprise à l'époque.
Avec une administration que vous voulez beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire vous discutez un peu du statut des fonctionnaires aujourd'hui.
Oui, alors moi je suis très frappée que aujourd'hui, pour servir l'État, il faut étudier le service de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez travailler dans l'administration, vous devez avoir fait une école qui prépare, une école avec un concours qui prépare au service de l'État. Alors,
Qui a changé, mais qui existe toujours.
Oui,
qui
alors
a changé
de nom, mais qui il n'y a pas que l'ENA. Hein, je pense à toutes les écoles qui préparent au service public. Il y en a plein. Et je suis étonnée qu'on ne cherche pas, au contraire, à employer tout type de personnes. Quelqu'un qui a appris l'anglais, qui a fait des mathématiques, qui a fait de l'histoire, c'est tellement important l'histoire. Ou même quelqu'un même qui, à un moment dans sa carrière, veut passer 2 ans au service de l'État. Je pense que ça change tellement notre vision.
C'est un peu ce que préconise et ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans son changement du statut des hauts fonctionnaires, non ?
Alors, des hauts fonctionnaires, oui, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Il faut s'intéresser à tous les types de fonctionnaires. Et quand même, ce changement est très limité. Moi, j'ai toujours été étonnée, alors c'était il y a quelques années, quand je voyais que quelqu'un, par exemple, qui était docteur, qui avait fait une thèse dans un sujet quelconque, ne pouvait pas prétendre au même poste qu'un énarque. Alors que quelqu'un qui est docteur, même imaginez docteur en sciences politiques, a peut-être des choses très intéressantes à dire pour la marche de l'État.
Ce qui, l'ENA, qui a eu comme défaut, effectivement, et peut-être que l'école qui a pris sa succession aura le même, c'est-à-dire de créer une, encore une fois, j'utilise le mot, une noblesse de robe, c'est-à-dire, certains diraient une caste qui pense ne pas avoir de compte à rendre, finalement. Parce que vous faites aussi le procès des hauts fonctionnaires,
qui, tout à fait.
Selon vous, n'ont pas de compte à rendre.
Alors, il y a d'abord ce problème.
Une sorte d'irresponsabilité politique.
Tout à fait, puisque vous êtes inamovible. Alors bien sûr, on sait comment ça se passe. Le pouvoir politique peut très bien demander à un haut fonctionnaire de changer de poste, de le faire démissionner. Enfin, on sait très bien que ça peut se passer, mais ça n'est pas transparent du tout. On ne comprend pas quels sont les déterminants de ces changements. Donc finalement, ces personnes ne paient pas toujours pour leurs erreurs. Et un système qui ne sanctionne pas les erreurs, c'est un système assez corrompu. Et par ailleurs, il y a un autre problème dans la formation à l'ENA. C'est qu'elle est extraordinairement conformiste. Elle ne favorise absolument pas la créativité.
Vous dites également, Laetitia Schroes-Bonnard, qu'il faut donc une décentralisation, mais une vraie décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous disiez au début de l'émission qu'aujourd'hui, la décentralisation en France était un transfert de pouvoir de l'État, plus ou moins bien fait. Vous préconisez finalement la création d'une fédération en France.
Oui, alors je sais que ça peut sembler extrêmement utopique et peut-être ça peut même être une forme de repoussoir pour certains, mais je veux bien expliquer ma logique. Déjà, je ne défends pas seulement la décentralisation, je défends le localisme. Je n'aime pas trop le mot décentralisation parce qu'il est négatif. Il sous-entend
il est administratif, en
exactement,
plus.
Il sous-entend toute la référence reste le centre et on décentre. Le localisme, dit par ce mot même que la référence, c'est le local. Et il s'agit surtout d'une décentralisation, parce qu'on est un petit peu obligé d'utiliser le terme, du pouvoir. La décentralisation administrative n'apporte pas grand-chose. La décentralisation du pouvoir, c'est la décentralisation de la capacité à prendre des décisions effectives dans un certain nombre de domaines. Donc ça signifie qu'on a des assemblées locales, moi je pense surtout au niveau régional, qui peuvent décider vraiment d'un certain nombre de politiques. Pas toutes, je ne dis pas que chaque région va avoir une politique étrangère, ce serait ridicule. Il faut penser en termes d'échelle. Il faut se demander ce qu'il faut faire à l'échelon national, ce qu'il faut faire à l'échelon communal, ce qu'il faut faire à l'échelon régional. Je pense qu'à l'échelon régional, on peut penser une politique éducative, on peut penser une politique de recherche, on peut même penser une politique de santé publique. Ça aurait été bien utile pendant la pandémie, notamment.
Est-ce que c'est pour cela que les Français ne vont plus voter, en quelque sorte, Laetitia Schroes-Bonnard, considérant que l'État est trop gros, trop loin, et ne répond pas à leurs attentes, finalement ?
Je pense qu'il y a plusieurs explications à l'abstention. Avant même de parler d'abstention, il y a plutôt des phénomènes contradictoires, parce que vous avez de l'abstention, mais vous avez aussi des sondages qui vous disent que les Français veulent un homme fort, et même l'armée à la tête de l'État.
Oui, avec le général de Villiers, qui revient souvent d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
C'est souvent cité,
que je n'épargne pas dans mon livre.
Non.
Donc moi, je vois d'abord plutôt une espèce d'incohérence, de brouillage. Ensuite, l'abstention, elle a plusieurs racines. Il y a en effet une forme de désarroi, de frustration vis-à-vis de cette complexité du pouvoir et en même temps de cette passivité, de cette impression que ce qu'on pense et ce qu'on veut n'est jamais pris en compte. Mais je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui est le propre de tous les pays démocratiques, c'est que les gens se désintéressent de la politique parce que nous sommes en démocratie. C'est paradoxal, mais ils ne voient pas l'enjeu. Peut-être que ça va changer avec la guerre. Mais finalement, quand on est en démocratie, quand on vit dans une relative prospérité, on n'est pas en danger. Donc, on n'a pas l'impression qu'on doit la défendre et qu'on doit se mobiliser en permanence pour la démocratie. D'ailleurs, Tocqueville l'écrivait déjà dans De la démocratie en Amérique. Il disait que pour lui, la démocratie allait de pair avec la montée de l'individualisme et que l'individualisme, c'est le repli sur soi. C'est le repli sur la sphère personnelle, sur sa famille, sur ses petites préoccupations. Et donc, l'abstention, c'est aussi ça.
Et vous citez Benjamin Constant, qui écrit dans La liberté des anciens et des modernes, je raccourcis le titre, « Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. » Nous y exactement. Sommes effectivement dans cette situation.
C'est exactement ça. Et en fait, cet extrait que j'emprunte à Benjamin Constant, pour moi, révèle l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui, parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes aujourd'hui dans l'aboutissement de la liberté des modernes. Nous la chérissons, nous en jouissons, nous avons cette capacité à déléguer le pouvoir et à vaquer à nos occupations. Mais ce que dit Benjamin Constant aussi, c'est qu'il y a une autre forme de liberté, c'est celle des anciens. La liberté des anciens, c'est une liberté paradoxale parce qu'elle est très contraignante. Elle demande au contraire d'intervenir énormément dans la vie politique et que chacun est à la fois celui qui prend la décision et celui sur lequel la décision, la décision va s'appliquer.
C'est la célèbre phrase de Thucydide qu'aimait beaucoup Castoriadis. Il faut choisir, se reposer ou être libre.
C'est parfaitement dit. Je pense que nous en sommes arrivés aujourd'hui à un point où nous avons besoin de réintroduire un petit peu de liberté des anciens dans notre liberté des modernes. Parce que la liberté des modernes est allée trop loin. Il faut réapprendre à faire de la politique, nous tous et pour nous tous. C'est pour ça que je défends notamment la démocratie directe. Parce que cet éloignement de la politique ne profite plus aujourd'hui.
J'ai l'impression que beaucoup de Français de votre génération, Laetitia Strauss-Bonnard, ne sont pas loin de partager un peu votre avis. Ce désir de vouloir participer à la vie politique au sens large, et pas forcément d'ailleurs en votant, mais participer, oui.
Oui, et c'est là qu'aussi il y a une ambiguïté. C'est que, est-ce que la participation politique, c'est simplement le vote et l'engagement, ou est-ce que ça peut être un tout autre engagement? Peut-être qu'aujourd'hui, nous en sommes aussi arrivés à un point où beaucoup de personnes estiment qu'elles font beaucoup plus pour leur environnement en s'engageant dans une association pour différentes causes. Ce qui est une très bonne chose parce que, comme le disait également Tocqueville, l'engagement dans la société civile, c'est une école finalement de la démocratie. Donc ça n'est pas contradictoire. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à réconcilier les deux, finalement. Qu'on n'oppose pas l'engagement autour de soi, la solidarité locale, les associations, et l'engagement politique. Les deux doivent se nourrir et s'entretenir.
D'ailleurs, les associations, vous avez dit le mot, sont souvent locales. Ça part précisément du local, le localisme.
Oui, c'est vrai.
L'action concrète, là où on vit.
Tout à fait. Et on l'a vu, en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine. On a vu cet élan gigantesque de générosité dans toute la France et au niveau très local.
Et on l'a vu également lors du Covid, c'est-à-dire des initiatives locales pour les masques, etc., etc., puisque l'État était absent au début.
Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, c'était les maires qui ont joué un rôle très important, qui ont parfois fait fabriquer des masques en utilisant des usines ou des fabricants locaux. Donc oui, et d'ailleurs, les Français sont extrêmement attachés à leur ville, à leur commune. Et souvent, il y a des projets de rationalisation du réseau de communes. On dit qu'il faut les supprimer, qu'il faut les fusionner. Et je pense que ce serait une énorme erreur. On ne se rend pas compte qu'on gagnerait peut-être un petit peu d'un point de vue budgétaire, mais on perdrait tellement au niveau justement de l'engagement local et de l'attachement local. C'est pas parce qu'on peut pas chiffrer quelque chose que cette chose n'existe pas.
Et d'ailleurs, le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque nous sommes en période d'élection, a été marqué par cette fracture qui est peut-être en train d'être réduite entre le pouvoir central et les régions, les pouvoirs locaux.
Oui, et d'ailleurs...
Quinquennat qui a commencé avec un divorce, quasiment.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez ambigu dans le projet d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, qui était de dire « moi, j'arrive avec des hommes neufs ». Alors, très bien, ce sont des gens qui viennent de la dite société civile. Bon. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous perdez vos racines locales. C'est bien joli de vouloir se débarrasser des élus locaux en considérant que ce sont des barons ou qui sont corrompus.
Il y en a un certain nombre.
Il y en a toujours. Ouais. Ou qui sont des cumulas. Mais en même temps, le fait de bien connaître son terrain, c'est aussi un moyen de faire remonter des informations. Et ça explique aussi l'éclatement des gilets jaunes. Parce que cette crise énorme a éclaté sans qu'on ait les capteurs sur le terrain qui nous disaient que ça allait mal. Et je pense qu'il y a plein d'élus, mais peut-être qu'ils n'étaient plus élus depuis Macron, qui voyaient les choses. C'est encore une autre preuve de l'absence de correspondance et de lien entre le bas et le haut.
Allez, terminons avec la douce France. Vous écrivez, Laetitia Schroes-Bonnard, que la douce France existe, certes, et nous l'oublions toujours, préférant nous représenter tout ce qui dysfonctionne par cette forme de masochisme chronique qui n'est qu'une des manifestations de notre mal-être politique. Ce qui frappe effectivement, c'est ce masochisme français. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti quand vous étiez en Grande-Bretagne, mais il est marquant quand même.
On le ressent plutôt quand on est en France, justement. Quand on est à l'étranger, il faut savoir quand même que la France, c'est le pays roi. La France est reine partout sauf chez elle. Les étrangers aiment la France et parfois certains se moquent du fait que les étrangers aiment la Tour Eiffel, les croissants, toutes ces choses qui sont des clichés. Mais ces choses sont vraies, en fait. Quand les gens viennent visiter la France et les monuments et le patrimoine magnifique de notre pays, ils le font parce que ce patrimoine est magnifique. Donc nous devrions aussi nous réjouir. Et je crois que la plupart des Français le font. Ils sont contents, ils aiment leur pays de cette façon, ils sont fiers que ce pays soit connu dans le monde entier.
D'ailleurs, parce qu'il y a peut-être une fracture entre Paris et le reste de la France, non ?
Ça, oui, alors il y a une fracture multiple. C'est vrai que pour ce qui concerne le bien-vivre, par exemple, je ne sais pas si ça reste important pour les élites parisiennes. Je pense que ça reste très important pour les Français ordinaires qui sont très attachés en plus à leur spécificité régionale et notamment culinaire, hein, parce qu'on peut se battre sur l'authenticité ou la supériorité de tel ou tel mets.
Et Jérôme Fourquet, dans son livre, insiste sur la coupure grandissante entre Paris et le reste de la France.
Oui, alors...
Dans la tête, dans les idées, dans les politiques, dans la manière de voir le monde.
En fait, ce qui est un peu désolant, c'est que je pense que cette coupure n'est pas forcément insurmontable. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à Paris et qui ont des racines en province. Il y a beaucoup de personnes en province dont les enfants finissent par étudier à Paris et à s'y installer. Donc, il y a une circulation. Il me semble que la coupure est surtout dans l'ordre des représentations et des mentalités. Et ça, je le regrette. Le parisianisme existe toujours. Le mépris vis-à-vis de la province et même de la banlieue, ça commence au périphérique, hein, existe toujours. Ça, je l'ai vécu et je le regrette.
Merci Laetitia Schroes-Bonnard. Votre essai s'intitule « De la France, ce pays que l'on croyait connaître ». Il est publié aux éditions Perrin et publié également par les presses de la Cité. Il est stimulant. Je répète ce mot parce que sa lecture nous donne à réfléchir. Merci.
Je vous remercie.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité dimanche avec de nouvelles idées dans un instant un nouveau journal sur RFI.